Alors, j'aimerais qu'on parle d'une expérience qui a été très forte pour toi, mais qui concerne profondément la musique. C'est vrai que tu l'as rappelé, il y a dans la musique un très fort attachement à la terre. C'est quelque chose de très puissant. Mais à un moment de ta vie, tu as, et puis tu en avais envie depuis longtemps, tu as voulu faire le chemin de Saint-Jacques. Mais tu ne l'as pas fait tout à fait de manière anodine, parce que tu l'as fait comme musicien.
Ah ben oui.
Et ce serait intéressant qu'on réfléchisse un petit peu à ça. Parce que pourquoi ce choix-là? Parce qu'après tout, bon, on peut faire le chemin de Saint-Jacques sans faire ce choix-là. Et qu'est-ce que ça signifiait pour toi? Qu'est-ce que ça a signifié pour les gens que tu as croisés? Et qu'est-ce que ça signifie aussi du voyage, le rapport de la musique avec le voyage, avec le nomadisme, avec quelque chose qui justement traverse?
Mais il y avait plusieurs choses, il y avait plusieurs motivations. Il y avait déjà bon, la musique, elle a toujours été présente, bien sûr, le long des chemins. Et bon, je pensais à Saint-Martial de Limoges, qui était un des passages importants sur le chemin, sur la voie de Vézelay. Donc c'était un passage obligé, donc l'importance de la musique à Saint-Martial, des troubadours, etc. Et puis la vielle, elle est présente notamment en Espagne tout le long dans les églises en représentation, en de nombreuses représentations, parce qu'on pense que notamment c'est par les pèlerins que la vielle est arrivée dans la lointaine Galice, où elle est un instrument populaire comme la gaïta. Il y a deux instruments populaires, la vielle à roue
Oui.
et la cornemuse. Donc cette cornemuse qui est une véritable religion chez eux.
Donc il y a,
Et donc il y a, il y
y a un
a, il y
chemin.
a effectivement, il y avait un lien, il y avait un lien déjà organique, en fait, je veux dire historique, entre ces chemins de Saint-Jacques, la vielle, et puis donc au bout du voyage, donc cet organistrum figuré sur le porche de l'église de Saint-Jacques, le porche roman, celui qui a été sauvé par l'habillement baroque qu'on a fait à la cathédrale, qui elle est romane. Eh bien, donc ça, en plus, il y avait un côté pratique, tout simplement. Il y avait un côté pratique. Je voulais ça. Il était sûr que je voulais partir sans argent. Il fallait survivre. Comment survivre, sinon en faisant de la musique ou bien mendier comme ça? Mais mendier, non. Mais je voulais offrir quelque chose aux gens, leur donner la possibilité de me donner quelque chose en échange de la musique que je ferais. Donc, il y avait ça.
Ça, c'est très intéressant et très important, cette transaction, en
Il y
fait.
avait aussi, que j'avais à ma disposition des chants de pèlerins.
Ah, tu pourrais nous en...
Ah ben, Los amis de Chenzaoum, los amis de Chenzaoum, très pauvres l'on marie, très pauvres l'on marie. On demande à l'aumône, on demande à l'aumône, un riz, c'est ça, bonjour, bonjour la dame, bonjour, bonjour la dame, bonjour vous chiadouna, bonjour vous chiadouna, etc. Donc ça, c'est un chant limousin, c'est des pauvres qui ont perdu le chemin de Saint-Jacques, ils vont demander chez une dame l'hospitalité, etc. Voilà, c'est une chanson assez édifiante, pas très intéressante du point de vue des paroles, mais c'est un chant de pèlerin. Et en tout cas, j'aime bien cette mélodie très simple, j'aime beaucoup cette mélodie. Il y en a un qui est plus du côté du bas limousin, quoi. C'est. Comment c'est? Eh mince. Eh bien voilà que ça ne me revient pas, pourtant je l'ai joué et joué et chanté. J'aime pèlerie de Villa et Chelo, qui ouvre la préjour d'un chapelle. Amen. Et notre rue est oustale, proche le moustier des changirales, cheste à tout chen la parroquia, père fâché le corps de notre cloquia. Amen. Dès le ventre de la guégie, dès nos gita en paradis, et d'une gracia de péage, père fâché belle au chambillage. Amen. Ça a été recueilli par Canteloube, justement, et c'est aussi dans le manuscrit de Saint-Jacques, pratiquement
à l'identique.
À l'identique.
Et il a, il a recueilli ces chants étaient chantés donc, marché ou pas du tout?
Ah, ça, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que donc j'ai beaucoup. Alors, j'ai chanté le Plaigne de Madeleine, beaucoup de ces vieilles légendes chrétiennes, je l'ai chanté sur le chemin, mais d'autres choses aussi. Et puis je jouais pendant des heures. C'était terrible d'ailleurs, après avoir fait ma marche, mes 30 kilomètres, de jouer pendant 2-3 heures, appuyé à un mur, parce que je ne pouvais pas m'asseoir ni rien. Donc ça, c'était assez pénible. Et petit à petit, là, il y a des musiques, j'ai créé des musiques aussi, j'improvisais justement, j'avais bien le temps de faire tout ça. Donc il y a des mélodies qui se fixaient. J'ai créé plein de choses qui ont été attachées au pèlerinage, que j'ai conservées comme ça, comme telles, comme attachées au pèlerinage, qui revenaient sous mes doigts. Je ne saurais pas te dire maintenant, parce que ça a disparu. Parce que je ne l'ai pas fixé, ça appartenait à ce moment. Mais c'était très... Et puis il y avait des airs traditionnels, comme cette bourrée avec une partie à 5 temps, là, que, comme je l'aimais bien, que je jouais volontiers. Mais il y a des choses, non, c'est dis donc, ça fait 40 ans. Hein.
Oui, bien sûr. Mais comment c'était reçu? Parce que j'imagine quand même que... Bon, d'abord...
Mais d'abord, c'était vachement bien reçu, parce que si j'avais été avec ma guitare, j'aurais eu un succès. Parce que chanter des trucs avec une guitare dans la rue, tout le monde fait ça. Je veux dire, mais j'étais avec une petite vielle plate de 1800.
Oui, c'est ce que j'allais te demander.
Il y avait la magie de la vielle. Il y avait la magie de cet instrument.
C'était
quoi.
Une vielle plus petite que celle-là.
Elle était plate, surtout plus petite que celle-là. Elle datait de 1800. C'était une petite vielle Colson de Mirecourt, puisqu'à Mirecourt, on fait des violons, mais on a fait des vielles aussi. Et notamment, donc, un constructeur d'origine anglaise qui s'appelait Colson. Et il en reste trois de ces petites vielles plates, et j'en ai une. Et elles sont très recherchées, on me l'a proposé combien de fois de me l'acheter.
Ah oui.
Une fois, je tombe, c'était à Rodez.
Tu l'avais trouvé où, toi?
À Rodez, attends, je vais t'expliquer. À Rodez, il y avait l'Estivade, donc un festival occitan. Il y avait un groupe du Piémont qui était là. Il y avait un vielleux, donc en italien. Avant de me dire bonjour, quoi que ce soit... Il me voit, il me dit « Est-ce que tu as toujours ta Colson ? Si tu la vends, je te l'achète. » Eh bien, j'ai dit « Tu pourrais me dire bonjour avant. » J'ai dit « Non, non. » En plus, je dis « C'est ma vielle de pèlerinage. C'est une relique pour moi. Il n'est pas question que je vende cette vielle. Oui. » Il y avait un type d'un groupe qui s'appelait El Bachas qui en avait une, et il y en avait une troisième. Il en reste trois de ces vielles qui sont de très, très bonnes vielles. Alors, je t'explique l'histoire de mes vielles, on peut dire deux mots de ça. Donc, Fauché me prête une vielle. J'apprends à jouer là-dessus, une très grande vielle, vraiment plus grande que ça, un gros, très gros volume. C'est ma vielle, ça devient ma vielle, c'est ma vielle sur laquelle j'ai appris. Puis un beau jour, il voit que j'y suis tellement attaché à cette vielle, Fauché me dit, il faudrait que tu trouves une autre vielle parce qu'il faudra que je récupère ma vielle un jour. Alors, quoi faire? Alors, il me dit, j'essaierai de t'en trouver une, hein, j'essaierai d'en t'en trouver une, mais bon, il faudrait quand même essayer de trouver une solution. Alors, c'est là qu'on est allé voir, avec lui d'ailleurs, parce qu'il en avait entendu parler, que merde, le confiturier de l'Ubersac.
Blanc.
Que Blanc?
Oui, Léon.
C'était pas le Léonce Blanc, mais son fils,
son
qui
fils,
était à l'époque,
oui,
qui à l'époque
lui.
Était le confiturier. Oui. C'était le père de celle qui a pris, qui s'est marié avec, je ne sais plus comment il s'appelait. Maintenant, on est revenu à Léonce Blanc. Et ils font de nouveau sous cette appellation et on voit le portrait du vieux. D'ailleurs, c'est de très beaux, de très belles présentations des bocaux de confiture. Ils ont compris que mais c'était. Comment il s'appelait le gendre, je ne sais plus, n'importe, ça n'a pas d'importance. Donc, il me dit, on va aller les voir. Donc, on savait que ce type blanc avait acheté une vielle à une époque, et on la voyait lors du Corso Fleuri. Tu rencontres la vielle qui était sur des chars en plein soleil pendant une journée. Bon, donc on va chez Blanc, il montre la vielle, et alors, bon, Fauché... Le bourgeois de Fort-Geneuve, la belle maison de Fort-Geneuve, Blanc avec son espèce de maison un peu faussement, on ne sait pas quoi, d'où, enfin une espèce de...
C'est un cottage normand. Hein.
De truc à la con.
Non, cottage normand des années 20.
Oui, enfin, j'ai pas cette idée-là, maison plutôt, ça faisait plutôt un peu fausse maison basque, je ne sais pas quoi. Enfin, bon, n'importe, il nous montre la vielle. Alors, c'était une pimpare, je me souviens, donc on voyait bien, c'est une vielle qui n'avait jamais joué, voilà. Qui avait vieilli sans jouer, qui avait au moins 30 ans vieilli sans jouer. Et Fauché, avec son savoir-faire incroyable, dit, allez, on l'emporte, on vous l'emprunte et on vous la rendra. L'autre n'ose pas dire non. Et voilà Fauché qui embarque la vielle, sans qu'on signe un papier. Et Fauché, qui était une vieille pute, quand il voulait quelqu'un, il disait « Ah, oh, quelle belle maison vous avez !» Oh là là, il était là. Et le blanc qui disait « Ah, ben à côté de votre maison de Fort-Geneuve, non, on ne peut pas comparer ce qui est vrai, c'est incomparable. » Il dit « Ah non, non, mais quand même, vous avez une très belle... » Et puis quand on est sorti avec cette vieille, « T'as vu comment on l'a eue ?» Alors la roue était voilée, parce qu'elle s'était voilée.
Ah, oui.
Alors on est allé voir tout simplement le menuisier à La Fayolle, à côté de Royer, le bébert d'Escabillou qui nous a qui on a tourné puis qui a remise ronde quoi en usant un peu vous tu arrives on est arrivé et donc j'ai fait jouer cette vielle comme j'ai pu mais elle sonnait pas parce qu'elle avait pas elle avait mal vieilli et puis elle était pas faite quoi et puis elle me plaisait pas quoi c'était pas bonne quoi c'était ah putain Et puis,
quand même un instrument. Hein.
Mais bien sûr. Et puis, je la faisais jouer, il fallait bien. Puis je dis, merde, il faudrait que... Et alors, j'apprends qu'il y avait un type, Jean Gagnère, qui était tout bien à Bourdeil, en Périgord, mais qui était aussi un occitaniste, un écrivain occitan connu, que je connaissais bien, qu'il avait, on me dit, mais il avait une petite vielle plate. Donc, c'était cette fameuse Colson. Mais je ne savais pas à l'époque, je ne connaissais pas Colson, même, ou quoi que ce soit. Alors je l'appelle, je dis écoute, je suis bien embêté, Jean, parce que j'ai plus de vielle. Et comment faire On n'en trouvait pas encore beaucoup, c'était très cher, quoi. Alors il me dit écoute, si tu peux la retrouver, elle est à toi, bien sûr que je te la vendrai et puis avec joie, parce que bon, quand même. Et puis j'en avais besoin, j'étais professionnel, et puis bon, j'étais pas n'importe qui, donc il fallait tout faire pour me trouver une vielle, quoi. Il me dit, mais je l'ai prêté à des jeunes, à tel endroit, tout ça, écoute, tu les contactes, et si tu peux la retrouver, tu leur dis qu'elle est pour toi, qu'il faut qu'ils la rendent, etc. Bon, on part avec la génie à l'époque, et puis on va à cet endroit, ah ben on l'a prêté à tel... Nous voilà partis ailleurs, on a fait 4 lieux comme ça.
Non.
Toute la journée, à courir d'un endroit de la Dordogne à l'autre. Et on arrive dans un endroit, il n'y avait personne, c'était une maison, et puis il y avait des grandes fenêtres, etc. Bon, c'était fermé à clé, personne n'était là. Et puis, je regarde quand même à l'intérieur, je vois la vielle. Ah oui. Je vois une vielle plate, je dis, ça doit être elle. Je dis, on va attendre, en espérant qu'ils reviennent.
Wow.
Effectivement, ils sont revenus. Et alors, donc, les types me disent, ah oui, on a une vielle. Ah ben, on ne savait même pas de qui elle était. Alors, tu te rends compte, les types qui prêtent, enfin, c'est ouais. N'importe quoi. Alors, ils n'en avaient rien fait. Oh, mais on ne peut rien en faire, etc. Alors, il y avait même 2 cordes. Il n'y avait rien dessus. Alors, je tends une corde quand même, simplement, je tends une corde pour la faire tourner et je vois le son qu'elle avait. Rien que ça. Je dis, oh là là, attends. Moi, je vais bien la faire tourner, cette vielle. Donc, je leur ai dit, c'est le propriétaire, c'est Jean Gagnard, vous pouvez vous renseigner. Cette vielle, il faut que je l'emporte. Mais non, non, mais si vous voulez, de toute façon, on ne peut rien en faire. Donc, je suis amené avec ma vielle. Et puis j'ai appelé Gagnard, j'ai dit, je l'ai retrouvé. Il m'a dit, ah ben, écoute, je dis, il y a beaucoup, besoin de beaucoup de réparations, mais je vais m'en occuper. Mais écoute. Alors il m'a donné ça pour rien, quoi.
Ce que tu pouvais payer, quoi.
Et puis je suis allé voir mon luthier qui s'appelait Gérard Martin, qui était à côté de Toulouse, qu'on est en relation encore. Ça a été vraiment. C'est lui aussi qui avait restauré un peu celle de Fauché. Et là, il m'a fait un travail magnifique, il a refait les éclisses, il a gardé ce qu'il pouvait garder, il y avait vraiment du travail à faire, mais il a fait un travail magnifique, et cette vielle sonnait magnifiquement. Mais elle avait moins de son qu'une vielle comme ça, parce qu'elle était petite, plate, c'est normal, etc. Oui. Et puis j'étais tellement habitué, alors j'ai joué quelques temps avec ça, et puis jusqu'au jour où Fauché m'a dit, ah ben, je t'en ai trouvé une, et une très bonne vielle. C'était une fille en plus de Meusac qui avait fricoté avec lui quand il était jeune, et elle avait effectivement hérité de son père une vielle et deux chabrettes. Il a d'ailleurs acheté les deux chabrettes aussi, il en a cédé une à Serge. C'est sur celle-là que s'est appris Serge, la chabrette à bec. Donc.
La
vraie chabrette. Et moi, donc, j'ai hérité d'une Pajot jeune. Il y a eu plusieurs, donc c'est une grande famille de Gensa dans l'Allier, où était un grand centre de fabrication des vielles, les Pajot. Et ce Pajot jeune a été celui qui a fait les vielles les plus musicales, donc avec des tables avec un grain très fin, comme ici. Donc c'est des résineux venus dans le nord très lentement pour que la table d'harmonie soit très bonne. Et donc c'était une très belle vielle. Et qu'après, quand j'en ai commandé une à Denis Ciora, je l'ai donné à chez Osamri. Quelqu'un doit l'avoir chez eux encore, cette belle vielle. Je m'en suis séparé. Donc, tu vois, je ne suis pas attaché à mes instruments. Je peux quand même les donner. Mais, et puis, donc, Denis Ciora, qui était un musicien du groupe La Compagnie du Sauveterre, avec qui on avait joué beaucoup, avec Serge, qui jouait, lui, naturellement, du diatonique, s'est mis à la lutherie. Et il a commencé à faire des vielles. Et il me les montrait, parce que j'étais un peu la référence pour lui. Et je disais, non, Denis, c'est pas ça. Il faisait des vielles plates. Je disais, c'est pas ça encore. Tu n'as pas trouvé ton son. C'est pas mal, mais ça ne sonne pas. Il faut que tu continues à chercher. Alors, il cherchait. Puis un jour, c'était à Saint-Alban, en Lozère. On était là, on s'était retrouvés. Il y avait une espèce de festival avec des stages. Moi, j'animais comme souvent le stage de vielle. Serge, celui d'accordéon. Et puis, il est arrivé à la fin avec deux vielles comme ça, une comme ça et une autre, avec une autre décoration et un autre son. J'ai essayé les deux vielles et j'ai dit, tes deux vielles sont bonnes, tu as enfin trouvé ton son. Et pour te le montrer, je t'en commande une, ce modèle-là. Donc ce modèle-là, qu'il a reconstitué, est devenu le modèle Méliard. Et d'ailleurs, sa femme a fait il y a un M de Méliard.
Ah oui, c'est ça.
Et donc, je lui avais dit, je veux qu'elle ait trois cordes et qu'elle ait deux chiens. C'est-à-dire qu'elle a deux petits trucs pour doubler le rythme.
D'accord.
Donc ça a été des trouvailles parce que ça n'existait pas. Et ça, je tenais à pouvoir faire pouvoir faire une carte ou une quinte
pour le rythme
à la mélodie parce que je trouvais que c'est riche.
Mais ça vient de ta connaissance des premières polyphonies peut-être aussi.
Oui, sans doute, oui. Mais mon attachement à cet écart-là, ces écarts premiers, quoi, qu'on pratiquait aussi avec Serge dans le chant. Parce que ça, c'est marrant aussi. Donc, on était pas, moi, j'étais pas tout à fait innocent, mais on avait quand même naturellement, on trouvait ces chants-là. Ces contre-chants, on les trouvait assez naturellement. Et un jour, donc, quelqu'un m'appelle, un copain, je ne sais plus qui me dit « Oh là là, mets-toi à France Musique, on parle de vous. » Alors vite, je branche France Musique. Et c'était Joël Cohen qui dirigeait la Camerata de Boston et qui avait aussi créé un ensemble, la Camerata Mediterranea, qui chantait les troubadours avec Anna Zema, et puis ils avaient embauché Jean-Luc Madier, qui venait de la musique traditionnelle gasconne, de Perlimpinpin Folk, du groupe Perlimpinpin. Donc ce type était en train de passer des trucs de notre disque marron, de notre disque traditionnel, en disant, voilà, deux paysans limousins qui, sans le savoir, font du Deschamps comme on faisait à Saint-Martial de Limoges. Alors ça m'a beaucoup amusé parce que je disais, oui, on le sait tout de même un peu.
Ah ben c'est, ça fait plus.
Mais c'est marrant d'entendre ça. Et donc là, eh bien après, j'ai joué surtout sur cette...
Donc, ce qui veut dire que quand même, finalement, cette vieille-là, c'est une évolution de la tradition, déjà.
Oui, mais bien sûr, une petite... Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à mettre 4 cordes mélodiques pour faire carrément des polyphonies encore plus riches. Ouais. Mais ça faisait trop, et puis ça fait trop à traîner, quoi. Ça me suffisait, là. Moi, ça me suffit. Mais il y a des luthiers, là, qui ont fait des formes futuristes, qui ont fait... Il y a tout un travail sur la vielle qui se fait. Moi, je participe pas. Après, il y a eu les vielles électroacoustiques, etc.,
oui,
qui n'ont le son que par l'électricité. Sinon, elles sont à vide, sans mais qui, avec des micros qui captent à l'intérieur, partout, tu vois.
Oui, je
mais
sais.
Ça, moi, j'ai pas... Mais il a fait ça, il a trouvé des solutions... Très bien pour ceux qui voulaient, au lieu d'être derrière un micro, autant que le son soit capté là, bien, pour avoir un équilibre entre tous les éléments de la vielle. Donc, Denis Sioran, mon luthier, a fait ça. Mais c'est lui aussi qui m'a fabriqué, selon mes desiderata, une chiffonie, un organistrum, et même un instrument qu'on a créé, que j'appelle la Vumvuneri, qui est un gros instrument, c'est un prototype. Il n'y a que moi, j'ai dit, tu n'en fais pas d'autre, hein, c'est moi qui veux cet instrument. C'est un gros instrument avec des cordes dessus et dessous, et on peut avoir tous les demi-temps, c'est-à-dire qu'on a 12 cordes. Des cordes très longues pour avoir quelque chose de très bas. C'est une vielle sans clavier. On ne fait que des bourdons. Je voulais un instrument qui n'ait que des beaux bourdons graves pour accompagner la voix. Et donc, je lui ai fait fabriquer ça. Je lui ai dit ce que je voulais. Lui, il pouvait résoudre les problèmes techniques. Donc, il y a un cache-roue ici. Il y en a un dessous. C'est un instrument plat, assez conséquent, mais plat, pour qu'il puisse y avoir... Donc, ça fait la roue, elle a, par un cache-roue, elle s'appuie là. Donc, tu as 6 cordes ici et 6 cordes dessous. Mais je me suis rendu compte... En frottant la main, tu obtiens des harmoniques d'une richesse extraordinaire. Ben oui. Et donc, je m'en étais joué. Il y a un film, le dernier film qui a été fait par Patrick Casals sur Marcel Delpas. Je joue de cet instrument là-dessus. Tout le monde se demande ce que c'est que ce truc qui fait.
Parce que. Oui, mais. Enfin,
donc, il y a eu là une création vraiment.
C'est la trompe marine. Enfin, c'est l'histoire de. En fait, il y a des instruments qui ne sonnent que les harmoniques, ne fût-ce que la trompette déjà.
Mais là, il y a les harmoniques plus le son, il y a tout ça. Mais c'est-à-dire que sur le reste, j'ai tous les bourdons que je veux. Alors, même je peux ne pas avoir des demi-tons, mais avoir doublé le bourdon à la même hauteur, à la même note. Un dessus et un dessous, puisque les cordes, elles ne sont pas toutes de la même grosseur, puisqu'elles sont pour des notes différentes. Il avait fait faire, chez Savarez, des cordes spéciales.
Oh.
Étudiées. C'est vraiment un prototype. Et, alors moi, je l'appelais la Vumvuneri. Vumvuna, c'est bourdonner. La Vumvuneri, et lui, non, c'est la bourdonnasse. J'ai dit, c'est affreux ton bourdonnasse. La Vumvuneri, ça vole, quoi.
Mais
je me suis rendu compte, donc j'ai mes bourdons, si tu veux, mais sur une corde, je peux faire des choses extraordinaires. Mais je ne l'ai pas travaillé. C'est un instrument qui ne joue pas, mais il existe. Peut-être un jour, quelqu'un fera quelque chose.
Tiens.
En tout cas, j'aurais apporté ça à la lutherie à base de vielle, si tu veux.
Oui.
C'est mon idée. Et il m'a reconstitué aussi la vielle, magnifiquement, la vielle qu'il y a dans Georges de la Tour, qui est au musée de Nantes, un des mendiants vielleux, celui qui est le plus fidèlement représenté. Donc, il a pu faire, et alors, c'est une merveille, le travail qu'il a fait. Donc, j'ai encore 3 vielles.
T'as 3 vielles.
Plus une Vumvuneri, plus un organistrum, et plus une chiffonie.
Oui, plus
plus une chabrette. Deux chabrettes.
Plus... un instrument indien aussi, je me suis laissé.
Et puis j'ai bien sûr mon harmonium. Et puis j'ai aussi 3 diatoniques de Denis.
Ah oui.
Un à un rang, un à deux rangs et un à 3 rangs. D'accord. Et celui à 2 rangs, j'en joue un peu. J'en joue dans certains. Je fais une causerie sur le loup. Je joue en m'accompagnant Et cet accordéon, il n'y a que moi qui peux le jouer parce que c'est un doigté qui n'existe plus. Et Serge a essayé, il ne peut pas parce qu'il sait jouer le doigté normal.
Oui.
La Magali qui tient la librairie occitane, elle a essayé, elle ne peut pas. Mais moi, comme je n'ai jamais joué d'autre accordéon, j'arrive à le jouer.
Oui. Ah, c'est très étrange cette histoire du clavier et de l'accordéon. Hein.
Ouais.
C'est un système. En fait, il y a l'instrument et le système musical qui va avec. C'est-à-dire que cette histoire du doigté de l'accordéon, il y a effectivement plusieurs, même aujourd'hui encore, hein, sur des accordéons grand public, tu peux avoir plusieurs types de doigté, suivant si tu es en Italie, en Russie, France, etc. Et ça implique une façon de penser la musique, forcément, qu'on le veuille ou non.
Non, et puis tu as aussi, déjà pratiquement, techniquement, il y a les Italiens qui sont quand même qui ont fait beaucoup pour l'accordéon, quoi, de toute façon. C'est eux qui ont introduit l'accordéon à Paris et le bal musette, c'était avec des pianos, avec des musettes. Mmh. Et l'accordéon, qui semble l'instrument populaire par excellence, il arrive très tard finalement, et c'est quand même surtout des migrants italiens qui l'amènent. Mmh. Les Pegouri et compagnie. Mmh. Et ils ont aussi un accordéon spécial qui est le sémitone. Mmh. C'est-à-dire, je ne sais plus, alors je crois que c'est la mélodie qui est chromatique et les basses diatoniques ou le contraire.
Oui, ça je ne saurais pas te dire.
Mais moi, je le sais parce que j'en ai vu, j'ai vu beaucoup en Piémont de musiciens qui jouaient le sémitone. C'est-à-dire que c'est un accordéon mixte qui n'existe pas chez nous.
Oui, oui. En fait, j'ai eu un étudiant qui avait travaillé, qui est accordéoniste, et il se trouve que l'origine de l'accordéon, figure-toi, c'est des recherches qui ont été faites au XVIIIe siècle pour imiter la voix.
Ah.
Et l'anche libre, qui est la caractéristique de ça, était la solution qu'ils avaient trouvée, et finalement ça s'est développé tout à fait différemment de ce pourquoi c'était prévu au départ. Mais je trouve ça très intéressant de se dire que l'accordéon est au départ avait pour vocation l'imitation de la voix, parce que évidemment on dit un instrument, il faut que ton instrument chante, etc. Ok, mais là c'est une affaire de timbre.
Ouais.
Et ça nous ramène au timbre, qui est quand même quelque chose de très très important. Ce que tu expliques des bourdons, le bourdon c'est presque l'absolu du timbre, en fait. Et moi je voulais te demander, en fait, d'une certaine manière, qu'est-ce que ça fait de s'accompagner avec ce type d'instrument, avec la voix. C'est-à-dire que, est-ce que ton placement de la voix, j'ai l'impression que ton placement de la voix entre quand tu chantes a cappella et quand tu chantes avec... Il y a la question du volume sonore, parce que déjà, faut passer par-dessus la vielle. Hein,
je ne peux pas avoir tous les... Il faut que je peux pas avoir toutes les cordes. Ah,
tu m'étonnes, oui.
Mais là, j'en avais quand même... J'avais mes deux cordes mélodiques et puis deux bourdons.
J'ai bien
mais
vu
je ne peux pas aller plus. Je ne peux pas avoir le rythme en plus.
Ouais.
Ça fait trop, ça ferait trop.
C'est ça, oui.
Donc je
Mais du coup, c'est quoi la perception de cette chose-là? Parce que ça, c'est quand même quelque chose de...
Mais la perception, c'est d'abord que ça passe par le ventre.
Ouais.
Parce que cet instrument, il est posé sur mon ventre. C'est un ventre sur mon ventre.
Ouais.
Et donc, les bourdons, je les reçois. Je les reçois là. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc, c'est une pénétration. C'est, pour le coup, c'est vraiment en profondeur.
Mmh.
Et alors, pour le reste, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas expliquer. Hein. Ce qui est sûr, c'est que la voix, elle est pleinement toujours... C'est ce que j'explique un peu dans le film, là. C'est que dans cette musique modale, chaque note, en même temps qu'elle est reliée et ô combien avec, pour former une mélodie avec celle qui la précède et celle qui la suit, elle est toujours en rapport direct, important, avec le bourdon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'horizontal et de vertical. Chaque note doit être pensée dans sa continuité mélodique et aussi dans son rapport à la base qui est le bourdon, à la dominante. Et donc ça, c'est essentiel. Donc moi, je le sens tellement que même quand il n'y a pas de bourdon, je chante comme s'il y avait un bourdon. Et j'avais fait un spectacle avec un pianiste classique qui était aussi un bon compositeur, Valéry Arsoumanov, un russe émigré en France, un très bon pianiste. C'était un spectacle autour de La mare au diable de Georges Sand. Et je chantais, moi, des fois avec la vielle, mais aussi comme ça, des complaintes à tralala, simplement. Et il avait remarqué, il me disait, tu as une qualité de niveau que tu ne descends pas, tu restes très stable dans ton niveau de chant, comme aucun chanteur classique ne le ferait, parce qu'ils ont toujours besoin, et c'est sans doute parce que tu as l'habitude de bourdon, et que ça fait que tu as une espèce de
stabilité.
De stabilité du chant, parce que c'est comme toujours si tu avais ce rapport au bourdon, même s'il n'est pas là.
Non, parce que dans la suite, effectivement, on a pu le démontrer, que dans la suite des accords du système tonal classique, effectivement, si on respectait, et un chœur a tendance à respecter l'harmonie juste et pas à chanter tempéré, et bien effectivement, après un cycle, on descend un tout petit peu. Et donc, au bout d'un certain nombre de cycles, un chœur peut dériver sévèrement. Et donc, effectivement...
Moi, je n'aurais pas remarqué si ce type-là ne me l'avait pas dit.
Mais c'est intéressant. Mais ça veut dire qu'il faut... le miracle du tempérament égal, de la tonalité, de ce que peut faire le piano, c'est la capacité à moduler. Mais le prix, c'est toujours pareil. Il y a un gain fonctionnel, mais il y a effectivement une perte sur un autre niveau. Donc c'est pour tout pareil. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Quoi. Alors Jean, j'aimerais qu'on conclue ces entretiens sur un sujet que je trouve important, qui concerne ta culture musicale, tes goûts musicaux qui vont bien au-delà en fait de simplement la musique traditionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
J'aime beaucoup la musique anglaise de... C'est étonnant, tu vois, sans doute, en tout cas, de la fin du 16e, 17e. J'ai par exemple un goût immodéré pour Gibbons.
Ah oui.
Je trouve ce type extraordinaire, je trouve sa musique vocale, instrumentale, mais surtout vocale. Tu parlais de ses chœurs d'enfants. Il faut dire qu'il y a une telle qualité dans ses chœurs anglais. Ouais. Mais les gens de cette époque, tu vois, Humphrey Bird, bien sûr, qui était d'ailleurs, qui en a chié parce qu'il était catholique dans un pays qui ne l'était guère. Et donc, il a eu vraiment beaucoup de mal. Mais tu vois, toute cette musique, je trouve que... Les Anglais aussi, généralement, notamment, comme Purcell, par exemple, dans toute sa musique, dans tout que ça soit ses chants ou l'opéra, le King Arthur, tout ça, il y a toujours une grande prégnance de la musique populaire, du fait populaire, qu'il n'y a pas de l'autre côté de la Manche, qu'il n'y a pas justement dans la musique française. Je trouve, quand tu écoutes son opéra, le King Arthur de Purcell, mais c'est des trucs, c'est populaire, quoi. Il y a des moments où on est dans la rue, quoi. Et tous ces cris de Londres qu'ils ont enregistrés, tous les compositeurs, ils ont composé à partir de ces cris populaires qu'on entendait dans les rues, des types qui vendaient des harengs et tout ça. Je suis vraiment très sensible à ça. Tu vois, ça, c'est un cas, par exemple. Donc, il y a un type, alors, de chez nous, d'en bas, quoi, un type de la fin du 17e, qui est mort en 1705, tout jeune, c'est Jean-Gilles. Jean-Gilles, il est né je crois qu'il est né à Tarascon, et puis il va rester un peu à Avignon, Aix-en-Provence, et puis il va aller à la cathédrale de Toulouse. Il va faire œuvre là, bien en dehors de la cour, et il va écrire, je ne sais plus pour quelle occasion, un requiem, qui pour moi est le plus beau requiem qui soit. On refuse de lui donner à Toulouse tous les musiciens et les chanteurs dont il a besoin. Donc il dit, eh bien, puisque c'est ça, je ne donnerai pas ce requiem, il sera donné la première fois pour ma mort, pour mon enterrement. Et effectivement, il sera donné... où il sera enterré, je crois que c'est à Avignon, enfin il revient chez lui, il est enterré. Et depuis, alors après, la cour s'empare de ce requiem qui est... Et donc j'ai écouté l'ensemble des œuvres de ce type qui est mort tout jeune, il avait 37 ans, et il a écrit notamment des lamentations pour les jours des ténèbres, quoi, le jeudi et le vendredi saint, qui sont des merveilles. J'ai découvert ce type-là il y a maintenant 40 ans et il m'accompagne. Tu vois, il y a des choses comme ça. Mmh. Où il y a, par exemple, pour mes 70 ans, j'ai un copain qui est ami avec un facteur d'orgue et qui travaille avec lui, un occitaniste pourtant qui habite à Périgueux et qui est donc est passionné par l'orgue. Et il m'a offert pour mes 70 ans un coffret où il y a toute l'œuvre de Buxtehude. Ah oui. Et en cassant mes noix, figure-toi, ça c'est parce que pour casser tous ces cerneaux de noix, il en faut des heures. Hein. Alors oui. Les heures d'hiver. Eh bien, j'écoute chaque année, je crois qu'il y a 6 CD, l'ensemble de l'œuvre de Buxtehude. Mmh. Et je trouve ça extraordinaire. De hors du temps, justement, où on dirait à l'époque c'est moderne ou c'est pas moderne. C'est pas pour rien que Bach a fait tout ce chemin pour aller.
C'est le grand modèle de Bach, oui.
Mais c'est extraordinaire, quoi. C'est la. Il y a dans cette musique, tu sais plus où tu es, tu appartiens pas à un siècle. C'est ça qui me plaît, quand ça dépasse tout, quoi. Il y a des moments, tu es sidéré, quoi. Et chaque fois que j'écoute cette musique, je suis sidéré. Voilà, enfin, c'est pour ça aussi. Il y a plein de choses comme ça dans la musique dite savante qui me passionnent, qui sont importantes dans ma vie. Mm-hmm. Vraiment, j'écoute beaucoup de cette musique. Mm-hmm. Énormément.
Tu parlais beaucoup d'Arvo Pärt aussi. Pour les
Ah, ben oui, ça, je sais que ce n'est pas ton ami. Mais... Non, non, mais parce que moi...
C'est plus compliqué que ça. Hein.
Mais si tu veux, ce type... Ce que j'explique un peu, mais très vite dans le, il y a vraiment une telle variété dans sa musique parce qu'il y a, par exemple, il y a quelque chose de tragique, de désespéré à la fois de, il y a que ça soit vocal, instrumental, il y a vraiment des choses. Moi, ce type-là me parle. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai découvert, et il m'accompagne depuis. Et puis son parcours, justement, de revenir à... Alors c'est vrai, c'est un mystique, c'est une sorte de mystique, ce type-là. Mais moi, parfois, je ne suis pas loin du mysticisme. En tout cas, j'ai un besoin de spiritualité, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pour moi, la vie, ça ne se résume pas à ces choses-là. Et aussi, le fait qu'en Limousin, dans la tradition et dans toute notre légendaire, il y a ce côté fantastique, c'est-à-dire que derrière cette réalité qui nous est donnée à voir, que les sens premiers nous donnent, il y en a bien d'autres.
Oui, c'est ça.
Il y en a d'autres. Et on vit avec ça. Moi, je vis avec ça. Et je sais toujours reconnaître ma part d'arbre, ma part de pierre, etc. Quoi. Ce grand souffle, c'est ça ma foi, si tu veux. C'est pas une religion... avec des prêtres et des textes d'ailleurs, mais c'est ce grand souffle, quoi. C'est l'animisme, c'est un animisme.
Mmh. Oui, c'est ça. Ben, c'est la manière dont tu parlais à ta vielle tout à l'heure m'a fait immédiatement penser évident. À ça.
Mais tu vois, pour en revenir à Arvo Pärt, par exemple, des pièces comme Tabula Rasa, qui sont effectivement, c'est la table rase, c'est vrai. Mais cette espèce de truc où on va au fond des choses, où il y a un désespoir absolu, j'ai toujours pensé aussi que la beauté tragique te sauvait comme l'autre. Je veux dire, toute beauté te sauve, parce que c'est la beauté. Et même si elle est tragique, la poésie de Del Pastre est infiniment tragique, quoi. Il n'y a rien de bien folichon là-dedans. Mais n'empêche que c'est la beauté, et ça te sauve. Chez Cioran, c'est terrible, quoi. C'est le traité du désespoir, etc. Mais cette beauté de la langue te sauve. Toujours. Mmh. Moi, c'est mon avis, quoi. Mmh. C'est en ce sens, quoi, que j'ai... Mais c'est vrai que la musique, pour le coup, c'est, tu vois bien que sous plein de facettes, c'est important. C'est très important. Ça peut être aussi les polyphonies du Burundi. Enfin, tu vois, c'est tellement de choses, quoi. Tellement de choses qui... Vraiment, ça... c'est très vaste, très vaste. J'ai pas. Il y a des gens qui sont là dans une musique particulière. Moi, c'est vraiment varié, quoi.
Mais c'est important. Et puis, la musique témoigne de notre rapport au monde, en réalité.
Ah ben oui, non, mais c'est un art premier, hein. Mais la danse aussi, voilà. La danse et la musique, la danse
sont aussi, très, très liés, c'est premier,
bien sûr. Non, non, mais ça précède la parole. Et ça va plus loin. C'est aussi ça, tu vois, tu parles de dessin, et Dieu sait aussi si on pourrait parler de... Pendant longtemps, tu verras dans le DVD, je parle d'artistes d'aujourd'hui, parce que je les connais, quoi. J'ai voulu... Je pourrais parler en peinture, en gravure, pendant des heures, de tout ça. Donc c'est essentiel. Mais quand je dessinais, donc, et puis j'écrivais des petits trucs aussi... Et donc, j'ai découvert Jean-Marc. J'ai dit, putain, il fait des trucs tellement...
Jean-Marc, je précise, Siméonin.
Oui, Siméonin. Il le fera. Mais à l'époque, peut-être que tu faisais des choses, mais tu étais vraiment très jeune, par contre. Mais lui, il avait déjà quelque chose que ça m'a séduit, vraiment. Mais c'est aussi parce que j'avais découvert la musique, parce que je faisais de la musique et que j'avais plus besoin de ça. Parce que la musique remplaçait tout, quoi. Quand tu commences à savoir un peu jouer, tu prends ta vielle, effectivement, là j'ai amorcé un peu, il faudrait que je me remette dedans, vraiment, je t'aurais fait une suite improvisée, ou vraiment improvisée, longue, etc. Je savais faire ça. Et à une époque, je faisais beaucoup de ces choses-là, j'avais écrit des suites, je ne les avais pas écrites, c'est erroné de dire ça, j'ai enregistré certaines, pour la Marcelle Delpastre, parce qu'elle adorait ça. Elle adorait quand je montais, si je pouvais monter avec la vielle et lui jouer, justement lui improviser des choses. Et là, elle était aux anges. Ça lui plaisait beaucoup. Et donc, j'avais fait des suites mythiques qui étaient très improvisées. Par contre, je définissais un mode très précis. Alors, c'était par exemple, je ne sais pas, le chêne et le cochon. Le être et la vache, enfin, je dis n'importe quoi, parce que j'en avais fait une, je crois qu'il y en avait une douzaine, où je lis un animal et un végétal. Et je disais musicalement ce que ça me disait, ça. Je définissais un mode, souvent très, très peu de notes, alors pour le coup, très peu de notes, 4-5 notes, et je développais des choses là, alors vraiment jusqu'à plus soif, quoi, jusqu'à épuisement de tout ce qu'on pouvait dire avec ça. Ça pouvait durer 10 minutes, jusqu'à un quart d'heure, et c'était ça ma suite. Alors il doit y en avoir quelques-unes qui traînent sur des cassettes que j'avais enregistrées pour la Marseille. Mais ça a été une époque de ma vie, si tu veux, c'est les années 70-80. Plutôt 80, quand je travaillais à la vielle, à la radio en plus, j'avais un agra pour m'enregistrer du trancon, j'en profitais, quoi. J'ai enregistré des trucs à l'époque, même sur des bandes magnétiques, donc. Et j'étais vraiment dans ça, ça a duré une dizaine d'années, puis j'en suis sorti. J'ai fait autre chose. Il y a un temps pour tout.
Oui, mais ça revient.
Mais ça reviendrait, mais j'ai plus le goût, si tu veux. Et mon copain Gérard Martin, donc, qui a été mon luthier, qui était un joueur de vielle, aussi un bon joueur de vielle, qui m'a restauré cette petite vielle plate là dont je te parlais, qui était à Bazièges, à côté de Toulouse. Là, comme je suis allé à Toulouse il n'y a pas longtemps, parce que figure-toi qu'enfin, des étudiants de Toulouse, une quinzaine, travaillaient sur une de mes œuvres. Et ils voulaient en faire la lecture, et ils m'ont invité à venir. Ça a été une rencontre d'ailleurs vraiment extraordinaire. Vraiment, ça m'a fait un plaisir et un bien fou. Et ça a été très, très émouvant pour moi. Et alors je lui avais dit, si tu es par là, il habite pas très loin, viens, ça nous fera une occasion de nous rencontrer. Et là, il m'écrit, il me dit, j'ai pas pu venir te rencontrer. Mais il me dit, alors figure-toi que ça fait pas mal de temps que je boude la vielle, ou bien c'est la vielle qui me boude. Tu vois, il m'a dit ça aussi. Je l'ai reçu hier, cette lettre, avant-hier.
Mais faut débouder, faut venir enregistrer une improvisation.
Non, mais pas. Oui, non, mais il faudrait que je retrouve le goût. J'ai plus le goût des choses aussi. Je vieillis. Hein.
Bon.
Non, bon. Puis bon, j'ai fait. Mais autrement, enregistrer une suite improvisée, c'est pas fait pour être enregistré, c'est fait pour être improviser, et puis ça s'en va, c'est parti.
Oui.
Et puis ceux qui l'ont entendu, là, souvent, c'était la Marcelle, souvent c'était moi, parce que c'était, j'étais tout seul, mais ça m'avait habité quelque temps, et puis ça s'en va. C'est pas grave, il ne faut pas tout fixer.
Non,
tout n'a pas à être fixé.
Bon, c'est le mot de la fin.
Oui, parce qu'effectivement, c'est sans fin. Non, mais j'ai été content d'avoir ce dialogue avec toi. Hein.